crossing a black Porsche. Frost respect, yeah, I'm the cat to get the hats off. And if not, nigga, your head with the hat get hacked off. Pop the front of your throwback and throw your back off. Turn you to Kojak. Matter of fact, blow your cap off. Like you riding in a sleepy hollow. Want something free that you can keep these hollows. We don't eat, we gobble. They niggas up with bedpans and PP bottles. Danny Glover version, black burner. The 3D models, see that? The fan push, I ambush them like the man Bush. G-Rack, you ran with crooks with them niggas the grand push. Five fam, get it right, land of Queens, the land of Brooklyn. Like, man, look, you can land in the damn brook. You can land in some land next to your man Sam Cook. My chef hat and my apron on, who said the man can't cook? You gon' be the next recipe in the ham handbook. When I fire, niggas turn whiter than my man Scram. Look, I pack shit to kick back like a Van Damme foot. That'll leave your fucking face covered with blam blam soot. And I disfigure you, nigga, I make the man can look. You just stick up man cool, I'm with the man can jokes. You just small timer, still working with hand to hand cook. I could be my dude to bar you niggas who slams the hooks. Get your ass added to the list that the same man took. Yeah.
We G, something y'all can never be. Like air, something y'all can never see. We G'd up, we read up. We got ones, blah, blah, make her feel hot ones. We G, something y'all can never be. Like air, something y'all can never see. We G'd up, we read up, we got ones, blah, blah, make her feel hot ones.
Ain't no stopping me.
I am
the evil genius.
Niggas say I died dead in the streets. Nigga, I'm getting high, getting head on the beach.
I threw my hands in.
I died dead in the streets.
Pardon me, I had to laugh at that.
Si pour vivre il faut s'écraser face à des bâtards dans ton genre, je préfère mourir droit dans mes sandalettes et la tête haute.
Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis.
Très bien. Je vais aller chercher toutes les boules de cristal et quand je les aurai, je rendrai la vie à ton père.
Regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. À celui qui veut ressusciter les morts.
Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi.
Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort, ah non.
Après la légendaire émission Animanga, la culture pop du Japon ressuscite sur Radio Campus Orléans. De l'actu, des débats, des chroniques, des trucs plus ou moins mignons, le Kawaii Campus Club, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h.
Il était pas mal ce sample de Final Fantasy VII qu'on a écouté en conclusion de l'émission. Double saut de nos amis qui nous ont précédés. Merci à eux pour ces contenus autour des jeux vidéo. Et nous, on enchaîne avec le Kawaii Campus Club, la dernière de cette année, avec donc votre émission habituelle consacrée à au manga et à l'animation japonaise. Dernière de l'année, alors on s'est pas trop foulé sur la thématique que l'on va faire et que l'on va déployer aujourd'hui, puisque c'est notre rétro 2025. Et une rétro 2025 assez élargie, puisqu'on est des grosses feignasses, un petit peu comme moi par exemple. Je n'ai découvert aucune nouveauté de 2025 en manga et animé. J'ai bien eu des découvertes effectivement, mais d'œuvres un petit peu plus anciennes dont j'aimerais par exemple vous parler. Je ne sais pas pour vous si ce sera des nouveautés de 2025 ou pareil des choses un petit peu plus anciennes, mais en tout cas on va parler vraiment de nos découvertes personnelles. Et pour ça je suis avec l'équipe au complet. Si je ne m'abuse,
non,
c'est ça.
Non, il manque Arthur.
Ah, il manque Arthur. Oh là, le pauvre, je l'ai zappé, je l'ai cancel, le pauvre, c'est terrible. Pardonne-moi, Arthur, si tu nous écoutes, je suis vraiment un ingrat de la pire espèce. Un retour, vraiment, parmi nous. Marion, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Oh, ça fait très plaisir de te voir, comment est-ce que tu vas?
Ah bah merci, ça me fait plaisir. Ouais. Moi ça va bien, franchement je suis trop contente de retrouver la radio en plus.
Alors,
ça fait longtemps que je suis pas revenue.
Alors, quelle nouvelle tu nous donnes hein? Ça va personnellement,
enfin
oui, voilà la routine, tranquillement. Ouais. Et donc, plaisir de te retrouver effectivement pour cette dernière de l'année du Kawaii Campus Club. Victor, tu es à la gauche de Marion,
oui.
Ça va?
Oui, ça va, ça
ouais,
va.
Pas de problème aussi, la non, fin d'année, tranquille, parfait. Réma à tes côtés aussi, comment
bonsoir.
Est-ce que tu vas? Ouais. C'est la deuxième émission pour toi, il me semble,
ouais,
c'est ça? Ouais,
c'est ça.
Ouais, bien voilà, tu nous as rejoint effectivement pour cette deuxième année du Kawaii Campus Club et on est très heureux de te compter parmi nous.
Merci.
Solena, comment est-ce que tu vas toi?
Bah, impec, malgré la fatigue, hein,
comme d'habitude.
Tu nous construis actuellement des logos spéciaux pour Écoute ta fac pour la fin d'année. Tu nous les as montrés hors antenne tout à l'heure. Toujours passionné de graphisme notamment et de dessin.
C'est ça, et faut pas oublier que je suis en train de prévoir un truc pour le Kawaii Confuse Club qui devait être fait depuis un très long moment, mais bon, c'est un autre détail.
Oui, effectivement.
On attend.
On n'en dit pas plus aux auditeurs et auditrices, mais effectivement, ça va un petit peu changer peut-être au niveau de nos représentations graphiques. Voilà, avec une experte, effectivement, qui est à la manette. Et enfin, Steven, alors toi, ça va ?
Ça va,
on a passé une bonne nuit.
On a passé une bonne nuit, hein. Il y a eu les Gauthier, donc forcément, il y a Clair-Obscur, Expédition 33. Donc,
qui a tout dominé en plus.
La tornade, la bombe atomique, tout ce qu'on veut.
Incroyable.
Record de récompense pour le JRPG. On précise bien, un JRPG, c'est effectivement un RPG développé par l'équipe de Sandfall Interactive, située à Montpellier, mais qui emprunte très clairement au code du RPG, et notamment de références en particulier pour le créateur Guillaume Broche, la série des Final Fantasy et aussi Lost Odyssey. D'ailleurs, c'est même une revanche quelque part un peu pour Lost Odyssey, ce RPG qui était sorti sur Xbox 360, qui était assez en avance, même très en avance sur son temps, mais malheureusement qui n'a pas eu la faveur des critiques à l'époque où il est sorti, qui est devenu un peu un jeu culte.
Et je l'ai pas fait.
Ouais, je t'encourage à le faire. Il y a Iconoclast notamment sur le YouTuber qu'on appelle aussi plus généralement Ico, qui avait fait une rétrospective de 4 jeux dont la notation a extrêmement mal vieilli, la notation de l'époque par la presse, et dans ces 4 jeux, il a listé Lost Odyssey, qui a été vraiment une énorme source d'inspiration. Ouais, je vous encourage à faire vos recherches dessus. C'est vraiment un jeu qui mérite le détour. Félicitations en tout cas à l'équipe, effectivement. C'est toi qui m'en as parlé en premier. Hein, de
je sais pas, tu m'as regardé, tu dis félicitations.
Félicitations à Clair-Obscur, félicitations à la France, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est une formidable récompense. GOTY Game of the Year. Et puis évidemment, les 9 récompenses aussi. C'est un record absolu. Le dernier en date, c'était The Last of Us en 2017, Last of Us 2. Ouais. Donc voilà, c'est quand même pas rien.
Et qui avait fait 9 aussi ?
Non, il en avait fait 7, je crois.
Ah, ouais, d'accord.
Il me semble. Donc voilà, et d'ailleurs, pour fêter un petit peu cela, je vous annonce d'ores et déjà que nos 2 pauses musicales, ce sera du Clair Obscur, Expédition 33, puisque parmi les récompenses qui ont été données, celle de la meilleure bande-son avec l'incroyable composition de Laurien Testard et la formidable voix de Alice Duport-Percier. Je suis un amoureux de cette bande-son qui est absolument incroyable. Sur ce, voilà, après ce petit aparté jeu vidéo pour faire un peu la transition avec nos amis de Double Saut, parlons un peu de nos thématiques, à savoir les mangas.
Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans.
Ouais, Steven, j'ai oublié un truc peut-être.
Non, je voulais faire une petite transition. Je sais pas si vous avez vu, mais la chaîne Game One, elle a fermé.
Oui, tout à fait. Ouais.
Jeux vidéo, manga, du coup, ça ferme.
Bah ouais, c'est triste. On a eu des bons souvenirs, effectivement, avec des émissions comme...
Il y avait Naruto qui passait sur Game One.
Fairy Tail.
Exactement. Donc voilà, fin d'une période.
Ils ont commencé par les jeux vidéo purement fin des années 90, début des années 2000, je sais plus exactement.
Je dirais début 2000, mais...
Mes premiers souvenirs
c'était
de...
C'était Channel Life avant, non? C'est pas ça?
C'est encore différent, je crois que c'était pas les mêmes, le même groupe.
D'accord.
Alors là, pour le coup, je suis pas du tout un expert, mais ce que je sais que moi, c'est mes premiers souvenirs, c'était Level 1 avec Marcus, notamment. C'est ça, voilà. Ouais. Et puis après, dans les milieux des années 2000, il y a justement eu ces mangas, enfin ces animés qui ont commencé à être diffusés. Et Naruto a été vraiment...
Naruto, Fairy Tail.
Une belle expérience, tout à
donc,
fait.
Voilà, donc c'était la petite transition vers les mangas.
Mais t'as bien raison, effectivement, force aux animateurs et animatrices aussi de Game One qui vont malheureusement pointer à France Travail. C'est même Marcus qui l'a dit sur ses réseaux sociaux, voilà. Allez, alors du coup, pour parler des mangas, notre chronique mensuelle des coups de cœur du Miskatonic Shop. Et donc Soléna, tu es allée à la rencontre de Gaël, comme c'est ton habitude un peu, c'est devenu un peu ton rendez-vous mensuel.
Oui.
Toujours des belles discussions avec notre gérant préféré de musique, enfin de boutique de boutique de manga, pardon. Ouais. Et donc, alors tu avais enregistré la chronique de Gaël,
oui.
On l'avait sur notre enregistreur, j'étais censé la récupérer, sauf que... on est une radio associative avec du matériel qui peut être emprunté par des bénévoles pour différentes actions. Et il se trouve que le Zoom a été emprunté par quelqu'un. Donc je n'ai pas la chronique. Par contre, on a les mangas. On les a bien récupérés,
oui.
Voilà.
Donc ça montre bien que moi, j'ai fait juste ma part du travail. Voilà. J'étais prêt, bien assidu et
t'as
tout.
Fait, t'as fait comme dans les jeux vidéo, une quête de livraison.
Oui, ah,
c'est ça.
T'avais Death Stranding 2.
Malheureusement, il y avait un roublard.
Le bébé en moins.
Alors, j'ai une synopsis quand même, hein, je vous avoue, je n'ai pas potassé du tout mon sujet comme Gaël. Alors, j'ai feuilleté un petit peu les mangas. Il y en a un notamment, assez feel good pour le coup, Momo et Ichi, petits esprits de la campagne. Un manga qui traite de la vie de Yasua, une jeune femme qui a vécu en ville et qui plaque tout pour s'installer loin du tumulte dans une minuscule bourgade des montagnes de Shishibu avec l'espoir de savourer un peu de paix. Et au détour d'une balade dans les bois, elle croise Momo et Ichi, deux fillettes aux yeux brillants d'espièglerie, mais elle va vite découvrir que l'une est un tanuki farceur et l'autre un kitsune rusé. Une rencontre qui va le bouleverser le quotidien de Yasua et on nous indique sur la couverture que on peut profiter d'un savoureux retour à la nature zen et immersif dans la culture japonaise avec une petite touche de fantasy, avec aussi également un dessin extrêmement agréable, très précis. Et vraiment, si vous venez de sortir d'une lecture un peu compliquée, un peu traumatisante, un petit peu dure à encaisser, je pense que c'est une bonne proposition pour prendre un temps de pause, un temps de respiration et vraiment se décontracter avant après peut-être de se replonger à nouveau dans un manga un petit peu plus corsé, un peu plus sévère. Voilà. Momoichi, Petits Esprits de la Campagne, c'est la première proposition du Miskatonic Shop. La deuxième s'appelle Sanda. De Paru Itagaki, l'autrice de Beastar. Et également, pour l'anecdote, la fille de l'auteur de Baki aussi. Hein, également.
Ah ouais ?
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Je l'avais dit dans une précédente émission.
J'écoute pas.
Tu as le droit de pas aussi tout retenir. Hein, voilà. Mais oui, effectivement, il y a une belle filiation aussi. Alors, pas du tout le même style et pas du tout les mêmes types de mangas. Mais oui, il faut savoir que Paru Itagaki a appris quand même, à mon avis, je pense, à bonne école avec son père.
C'est clair.
Et donc, le synopsis de ce manga appelé Sanda, c'est quand Kazushige Sanada et. Sanda, pardon. Est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie, mais Shiori en est certaine, Kazushige est le dernier descendant de la lignée et surtout son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portée disparue. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer les souhaits des enfants ? Kazushige s'en sort de justesse en se transformant en adulte à barbe blanche et à la carrure de bodybuilder. Pour autant, il n'a jamais assumé ce rôle légendaire et découvre ce corps pour la première fois. Il n'a aucune idée de ses pouvoirs ni de la manière de les contrôler, mais il accepte d'instinct la mission confiée par Shiori, un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants. C'est ça l'esprit de Noël. Après l'incroyable Beastars, Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée, remplie d'action avec ce zeste de folie qui fait son charme. Et donc c'est chez les éditions Kihun, et je n'avais pas dit aussi Momoichi, Petits Esprits de la Campagne, ça ce sont les éditions Nobinobi. Voilà pour les deux propositions que vous pouvez gagner, sachant qu'on avait déjà fait une première sélection avec les personnes qui ont liké notre post Instagram et Facebook. J'ai fait un premier tirage au sort, mais la personne qui a été tirée au sort pour l'instant ne m'a pas répondu. Donc je vais lui laisser jusqu'à la fin de semaine pour se manifester. Et si
la fin
pas...
de la semaine prochaine, tu veux dire ?
Non, la fin de cette semaine, parce qu'après je ne travaille pas. Après.
Ah ouais.
C'est-à-dire que la fin de semaine prochaine, vous ne me revoyez plus, je coupe tout pendant deux semaines, démerdez. Vous. Donc lundi prochain, si je n'ai pas de nouvelles, je relancerai un tirage au sort auprès des personnes qui ont liké la publication pour leur pour faire gagner ces deux mangas. Voilà.
C'est super.
Il y a des choses qui ont attiré votre attention, peut-être.
Ah, Momoichi, ça a l'air bien. Hein.
Ouais. Ouais, j'avoue.
Moi,
ouais.
C'est Sanda qui me plaît. J'aime bien le dessin.
Ouais, le dessin très un peu brut.
Oui,
brutasse, un peu.
On dirait qu'on y a passé à plusieurs fois plusieurs coups de crayon.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bah typiquement, on reprend clairement son style qu'on voit dans le manga Beastars. Hein.
C'est
clairement un peu crayonné, un petit peu brouillonné quelque part, mais du brouillon de grande qualité.
Ouais, puis ça, l'histoire, ouais. Moi j'aime bien. Je trouve ça marrant, le fait qu'il se transforme en Père Noël.
Ah, puis moi j'adore les yeux aussi. Tu sais, c'est des yeux très, très expressifs, très grands et en même temps très, très je sais pas, anguleux.
On dirait
français,
un peu des yeux de serpent.
Ouais, des yeux de serpent, tout à fait. Une bonne référence. Donc voilà pour, pour donc, ces deux propositions du Miskatonic Shop. Donc, et puis vous pouvez aussi les acheter. Hein. Ce sont des bonnes idées de cadeaux de Noël. À offrir à vos proches.
Et qui est en plus de ça différent de toutes les sélections qu'on a eues depuis octobre et novembre, qui étaient très gore.
Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On lui avait demandé si il pouvait nous proposer des choses un petit peu plus feel good pour cette fin d'année. Et il l'avait promis à notre micro Gaël. On l'en remercie bien chaleureusement. Voilà, 19h15, avant d'entamer la partie consacrée à notre rétro de 2025, une petite pause musicale, je vous ai dit, du clair-obscur, Expédition 33. Il y a, la bande-son, elle est phénoménale, elle est incroyable, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sons.
T'as pris lumière du coup ?
Non, pas du tout. Ah, justement j'en ai par-dessus la tête d'entendre à permanence soit Alicia ou soit Lumière, qui sont des très bons sons, mais qui sont pas forcément, je trouve, les plus qualitatifs de la bande-son. C'est qualitatif, attention, hein, c'est... Mais je trouve qu'il y a des choses, des pépites qui sont aussi un petit peu cachées. Je vous en propose une qui s'appelle Orphelin. Alors elle dure 5 minutes 20, mais je vais vous mettre les 3 premières minutes avant que nous revenions à l'antenne. Claire Obscure, Expédition 33, la bande-son donc composée par Laurien Testard et aux paroles Alice Duport-Percier. Orphelin de Alice Duport-Percier à la parole, pardon, je vais me retrouver, et de Laurien Testard, donc le compositeur de la bande-son de Clair Obscur, à l'instant sur Radio Campus Orléans 88.3 FM sur le Kawaii Campus Club. Le mélomane que tu es, Victor, en a pensé quoi?
Si j'allume ton micro, voilà.
1-2-1-2, ouais. Oui, oui. C'est pas mal, ouais, en termes de composition. C'est très baroque dans l'esprit. Parce qu'il y a du contretemps, il y a du contrepoint, etc. et tout. Mais ça reste assez mélodieux et ça part un peu moins en couille que dans le baroque. Donc c'est plutôt pas mal.
Ah oui, ça part vraiment en couille le baroque, je ne sais pas.
Oui, il y a un petit côté fou dans le baroque quand même. Ouais.
Moi, tu vois, moi, la musique, je la ressens juste par émotion pour le coup. Ouais, hein, ouais. Donc voilà, le côté
technique. Non, mais c'était bien. Ouais. Après, j'avoue, j'ai plus trop l'habitude d'entendre du chant lyrique en français, donc ça m'a fait un peu bizarre.
Ah bah oui, tu m'étonnes, oui. Bah ça nous a fait bizarre, Clarté. Je pense, en tant que joueur.
Ouais, attends, mais ça passait bien.
Ouais, ça passait bien.
Moi, je trouve que ça passe bien.
Ah oui.
C'est pas mon style de musique, mais je trouve que vraiment, il y a eu un truc. Et puis après, bon, c'est aussi tout l'univers qui fait que ça rend super bien. En fait.
Et alors, pour l'anecdote aussi, ça, c'est une musique qu'on pourrait s'attendre potentiellement à avoir sur un combat de boss ou quelque chose comme ça. Pas du tout, c'est sur un ennemi random dans une zone complètement optionnelle. voilà. Donc,
super.
C'est pour vous dire un petit peu. Oui, on a des musiques de boss quand même qui sont assez extraordinaires aussi. Hein, voilà, Une vie à t'aimer, notamment.
Hein, de ouf.
C'est ça, ouais.
C'est ça que je pensais.
Ouais, c'est ça. Bref, allez, passons désormais à notre thématique, donc rétro 2025 manga. Qui veut peut-être se lancer un petit peu, nous dire un peu quelles ont été ses découvertes de cette année en termes de manga et d'animé? Peut-être qu'on peut commencer un petit peu par des choses qui sont vraiment sorties cette année, par exemple.
Cette année, moi j'ai Gachakuta.
Ouais, Gachakuta, ouais.
Pour faire
par
le lien avec le mystère catonique qui nous en avait parlé il y a quelques. Ouais. C'était l'an dernier, je sais même plus.
Quand on a commencé, ça a été l'une des premières.
Ça devait être 2024.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Qui nous en a parlé, l'animé est arrivé en 2025 et effectivement, ça a été une vraie claque.
Ouais.
Je suis encore.
Tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, ce qui t'a attiré.
En fait, c'est le. Comment dire? C'est l'univers. C'est le fait qu'on soit dans une décharge au début et puis après, on se rend compte qu'il y a vraiment tout un univers. C'est le côté un peu streetwear. Je sais pas si vous voyez un petit peu.
Mmh.
Vêtements larges, des tags un peu partout. J'aime beaucoup ce genre de truc et du coup.
Côté hip-hop, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Hip-hop, urbain.
C'est ça. Et du coup, ça m'a bien plu. Et puis, je trouve que bon, l'histoire, elle est pas des plus originales non plus, mais on accroche, puis on accroche au personnage également. Du coup, voilà, ouais, c'est une bonne découverte.
Mmh. Ouais, effectivement. Il y en a d'autres qui ont vu un peu Gachakuta, que ce soit en manga ou en animé, par exemple. T'en as pensé quoi, toi, Soléna?
Alors, perso, j'ai plus regardé l'animé d'abord, avant de me remettre sur le manga, que j'ai pris, du coup, de chez nous. Et
l'animé t'a donné envie de lire le manga?
Oui. Surtout que ma pote DJ m'a énormément forcé en me disant: ouais, j'ai lu le manga, j'ai lu les scans, genre c'est trop bien, genre j'ai envie d'en parler avec toi et tout. Et je me suis dit bon, je vais regarder l'animé. Déjà, j'ai plus regardé l'animé en français et franchement les voix en français elles donnaient vraiment du lourd et j'ai trouvé ça vraiment incroyable comment le personnage principal Rudo il est genre vraiment brutal et lorsqu'il s'est fait éjecter en fait genre ça se sentait qu'il avait la rage et...
Alors, éjecté, rappelons rapidement, en fait, il est victime d'une injustice, il est accusé à tort d'un meurtre, il vit dans une ville céleste, il me semble,
dans la partie pauvre de la ville céleste.
C'est ça.
Partie binonville et tout.
Et donc, la pire peine qu'on peut subir, en fait, c'est qui voit une peine de mort, en fin de compte, c'est d'être exilé, éjecté, en fait, dans les bas-fonds, bien en dessous, en fait, de cette ville céleste, là où s'accumulent, en fait, toutes les ordures, une espèce de décharge, en fait, énorme décharge à c'est l'ouvert ça, des c'est ordures ça. Laissées par cette grande ville céleste. Hein,
c'est ça. Ouais. Et j'avoue, en regardant le premier épisode, j'étais vraiment en train d'insulter tous les maires de tout le monde. sans aucune hésitation, j'étais en train de me dire: mais vous foutez de moi, genre ça se voit.
Sa petite amie, surtout.
Oui, c'est ça. Moi, c'était sa petite amie. Là. J'ai fait la trahison, franchement. Ouais.
J'avoue, j'ai jamais eu autant envie de boxer une petite.
Après, bon, je m'attends. Ça se trouve, il va suivre jusqu'au bout l'auteur de ce manga. Mais comment dire? J'ai peur qu'il nous ressorte encore une fois le sempiternel cliché de en fait non c'était pas sa petite amie, c'était une illusion ou quelqu'un qui a projeté qui a pris l'apparence de son ami ou je sais pas quoi pour le faire disjoncter.
Non, moi je pense que c'était une connasse.
Dans la vie
mais j'aimerais bien qu'on en reste là-dessus pour une fois qu'on ne déconstruise pas ce truc là
et que, ce que j'aimerais aussi c'est que Rudo, en fait, il ne soit pas en mode non mais je te pardonne et tout ça et tout ça. J'ai juste envie que genre dès qu'il la voit, il la boxe.
Ouais, mais il y a une scène comme ça qui semble suggérer le fait qu'il peut être dans du pardon. Il me semble. Il y a une illusion qui lui est aussi projetée. Et en fait, il arrive pas à en vouloir totalement à sa petite amie. Enfin, il y a une part de lui qui continue encore à l'aimer.
Oui, malheureusement.
Voilà. Parce que Rudo, effectivement, est un protagoniste qui tranche un petit peu avec le cliché du shonen habituel. D'ailleurs, comme tu disais, c'est un brutal. C'est un brutal, c'est quelqu'un qui a la haine et qui dit, juste avant d'être projeté dans les bas-fonds de la société, d'être exilé, il leur dit « Je vais vous retrouver ». Là, il regarde toutes les personnes qui le traitent, l'insultent, ils disent « Ouais, c'est bien fait pour toi ». Il dit « Je vais remonter, je vais tous vous buter. Je vais tous vous buter, littéralement. » Voilà. Il y a vraiment cette histoire du vengeur, clairement, et il n'y a pas de pardon qui tienne ou quoi que ce soit là-dedans. Donc, évidemment, ça va être questionné là-dessus, parce qu'il va falloir qu'il fasse la paix un peu avec sa conscience, et puis qu'il apprenne aussi à... Il y a toujours dans la thématique des shonen ou autre, le fait de te laisse pas enfermer non plus dans ta vengeance, etc.
Et
voilà, dépasse-toi, dépasse-le pour que tu puisses aussi vivre, vivre pour toi aussi. Donc, je sais pas,
mais personnellement, ce que j'aimerais, c'est juste, oui, il faut faire la part des choses, mais souvent... Juste une ou deux baffes, c'est
bon. Oui, il y a quand même une gamine qui à un moment il boxe dans l'anime parce que justement elle lui a projeté l'illusion et du coup il lui casse la gueule.
Ah ouais?
J'ai oublié son nom.
Celle avec ses chaussures qui puent.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Oui, parce qu'il y a une histoire de chaussures qui puent avec un parfum qui te, bah, qui te plonge dans une illusion. Ouais, c'est un peu what the fuck, mais bon, voilà.
Voilà.
Mais bon, Gachakuta, en tout cas, ouais, une des grandes propositions shonen Neketsu actuelle. Voilà.
Une belle découverte 2025.
Ouais, c'est ça. Et donc la saison 1 est terminée sur Crunchyroll.
Ah, elle est encore en cours.
Hein.
Ouais, okay. Elle est encore en cours.
Voilà. Bon, bah très bien, parfait. Bonne première nouveauté de 2025. Est-ce que autour de la table, vous avez d'autres choses autour vraiment des nouveautés purement 2025 avant après qu'on évoque nos découvertes personnelles?
Il y a une hésitation là.
Ouais.
Bah, en fait, Marion, j'ai mis nouveauté, mis non, parce que la saison 2 est sortie cette année.
Ouais, allez, vas-y, on va dire que ça passe.
Mais moi, je l'ai découvert vraiment cette année, même la saison 1.
Ok,
c'est pour ça
marche.
J'en parle.
Vas-y.
Du coup, Dan Da Dan.
Ouais.
Ah, encore.
Encore et tout.
Voilà. Mais en même temps, le doublage est incroyable aussi. Bah, pareil, les voix sont folles.
Ouais.
Les répliques, surtout, sont trop bien construites.
Vous regardez en français?
Oui.
Oui.
Ok.
Mais franchement, non.
Oh, le mépris.
Je avec sens le jugement.
La version Céline Dion ne t'a pas plu?
Non.
Parce qu'il y a une scène avec Céline Dion.
J'ai pas essayé, en fait.
Mais franchement, elle est trop bien. Tu devrais essayer. Hein.
Ouais, écoute. Ok.
Donne la chance à la VF.
Ouais. Saison 2, est-ce qu'il y a, pour expliquer à quelqu'un qui n'a pas lu ou qui n'a pas regardé comme moi, parce que voilà, je suis un gars du passé. Voilà, moi je me plonge vers des trucs du passé, je suis un boomer, voilà, ou quasiment. Entre la saison 1 et la saison 2, est-ce qu'il y a un peu du changement en termes d'ambiance, en termes de thématique, ou est-ce qu'on reste vraiment sur la même constance sans véritable évolution?
Y a quand même un peu d'évolution, mais comme tout shonen, avec le personnage principal qui prend de la force. Après, ça tourne toujours autour des mêmes thématiques à peu près.
Ok. Voilà. Non, parce qu'à un moment donné,
une quête qui est toujours pas résolue en soi.
D'accord. Mmh. Ouais. Parce que bon, dans One Piece, c'est vrai que par exemple, si on prend One Piece, à certains moments, il y a une stagnation, mais il y a des moments d'évolution où là, l'histoire va prendre en épaisseur, va prendre en sérieux, le personnage en lui-même va évoluer parce qu'il va subir des coups durs ou des traumatismes qui vont l'obliger, entre guillemets, à se relever et à avancer et à se dépasser, encore une fois. Comme on
mais là, je crois dans Dan Da Dan, c'est plus en mode, il rencontre des gens et puis ils apprennent à vivre avec ces nouvelles personnes qui rejoignent le groupe. Ça se passe plus comme ça.
Oui.
Peut-être qu'on est sur la période où l'équipe se forme, un peu à la manière de One Piece, où t'as des arcs où progressivement t'as les personnages qui arrivent.
Ouais.
Je pense qu'on est un peu dans cette période-là, et puis après on va arriver sur autre chose.
Oui, tout à fait, oui, ça reste encore le début globalement d'un manga.
Vraiment au début.
Bah, après, il y a aussi les méchants qui commencent aussi à arriver.
Oui.
Parce qu'il y en a au moins un, on l'a vu, mais pour l'instant il n'est pas revenu encore. Okay. Donc,
je te voyais acquiescer aussi, Rema. Tu connais aussi toi Dan Da Dan, tu l'as regardé, tu l'as lu.
Je suis actuellement à jour sur les scans.
Ouais. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que tu en penses de Dan Da Dan, toi, pour le coup?
Franchement, j'aime beaucoup. C'est complètement déjanté. La quête de retrouver ses boules, moi, je trouve ça très drôle. Donc, forcément, ça me donne envie. Et les personnages sont vraiment bien. C'est vrai que le méchant principal, entre guillemets, arrive assez tard. Et donc du coup forcément c'est à chaque fois il y a une bonne évolution du personnage principal hein. Et aussi de Momo, même si j'ai, par rapport au scan, j'ai vu qu'il y avait des gens qui critiquaient certaines choses, mais bon, moi je m'en fiche, j'aime bien quand des fois il y a des petites pauses entre les actions. Mais c'est vraiment un très bon manga, je trouve.
Ouais, ok.
Après, moi ce que j'aime beaucoup avec Dandadan, c'est que justement l'auteur, son personnage préféré, c'est Momo. Et du coup, en fait,
donc le personnage féminin. Hein.
Le personnage ouais. féminin qui à la base devait être le seul personnage ouais, principal de l'histoire. Et en fait, c'est encore
c'était
une fois,
pas assez vendeur.
C'est l'éditeur qui a
ouais,
dit qu'il fallait
ça
un duo.
Pas.
Et mais à la base, lui, il voulait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a tendance à vouloir développer Momo et à vouloir travailler autour de ce personnage plutôt que sur Okarun.
Ouais, ok. Donc Okarun devient presque un sidekick. Un
bah peu, des fois, il a un peu ce rôle-là.
Ouais. Oui. Ok. Rappelons les pouvoirs aussi peut-être de ces deux personnages, ce qui les distingue un petit peu.
Momo, elle a des pouvoirs mystiques. C'est ça, mystique. Mmh. Hein, c'est le bon mot.
Elle peut contrôler son aura un peu.
Voilà, c'est ça. Et
ouais, d'accord, mais ça permet de faire quoi? Parce que dans Dragon Ball aussi,
elle matérialise des mains, tu vois. Il y a des mains géantes de son esprit.
Enfin, ça fait à l'œil humain, ça fait effet télékinésie, quoi.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Okay. Et Okarun, lui, il se transforme. Il a fusionné
Mémé
Turbo, qui est un fantôme, et du coup ça lui permet de se transformer et d'être comme son nom l'indique un peu rapide.
Ok.
Un petit peu.
Un petit peu. Beaucoup.
Ouais, parce qu'il peut se booster.
Ah, je sais pas sur l'échelle de Flash par exemple dans DC Comics on est à combien?
Oh, on n'y est pas encore.
Ok, donc bah Dandadan, effectivement, saison 2, on est en plein quand même dans l'actualité, c'est pas une nouveauté en tant que telle, mais c'est une découverte pour toi Marion, effectivement, et la saison 2 bah, qui est en
terminé. Qui est
finie. Ouais, qui est finie, ouais. Ok. Ok, autour de la table également, y a-t-il d'autres propositions, d'autres choses?
Moi j'ai un petit 15 Diary.
Ah oui, les carnets de l'apothicaire.
La saison 2 est sortie cette année.
Ouais, tout à fait.
J'ai pas encore tout maté, mais c'est sur Netflix, donc c'est quand même pratique.
Ouais.
Et donc du coup, l'histoire, c'est en fait l'histoire d'une jeune femme qui est apothicaire, donc alchimiste, pour faire simple, qui se fait. Oui, enfin, bon, je vois que tu hoches la tête. Mais...
pas vraiment alchimiste.
Non, hein. non, mais bon, disons qu'elle prépare des potions. Quoi. pharmacienne si tu préfères. d'ailleurs en allemand ça se dit Apotheke, la pharmacie.
Ok,
d'accord.
Je savais pas.
Qui en fait se fait enlever pour servir au palais de l'empereur, qui est du coup un endroit absolument immense où il y a des milliers de personnes qui travaillent, etc. et tout. Et elle se retrouve lingère, donc dans la caste la plus basse qui existe parmi les employés de l'empereur. Et elle va sauver la fille d'une des maîtresses de l'empereur qui est tombée malade, et elle découvre pourquoi, etc. et tout, elle le dit, et du coup ça sauve la personne, etc. et tout, et du coup elle va entrer au service de la préférée, alors je crois que c'est la maîtresse préférée de l'empereur,
Gyokuyo.
Oui, c'est concubine, ouais.
C'est concubine, oui.
De l'hémoglobine, non pardon, c'est ma référence MC Solar. Pardon.
Et voilà, et elle va...
c'est une transition pour blockchain qui arrivera après, voilà. L'émission hip-hop.
Et voilà, et elle résout des mystères, des affaires, enfin voilà, des trucs comme ça, en apprenant, en essayant de se conformer à cette nouvelle vie qui est celle du coup de dame de compagnie.
Ok.
Et Mao Mao, ça veut dire chat.
Oui.
Voilà. Je donne ça. Cette info ne sert à rien.
Mais... en vrai, ça sert à quelque chose quand dans un des épisodes de la saison 2, parce que j'ai tout regardé en plus, d'une traite. J'ai pas dit, voilà. C'est que y a un épisode où il y a un petit chat qui s'introduit en fait dans le palais, et du coup l'empereur en fait qui a décidé de la garder l'a appelé en plus Mao Mao.
D'accord.
Et ça a fait vraiment chier la protagoniste en plus.
Et qu'est-ce qui fait la spécificité un peu de ce manga et de cet animé?
Ah, c'est
selon
très...
vous, qu'est-ce qui fait que ça a autant de succès?
Bah, déjà, moi j'en ai marre des trucs où t'as un gamin de 14 ans qui dit moi je veux devenir le meilleur Hokage slash pirate slash chef de bande.
Tu devrais venir à notre club manga de. Non, tu devrais venir à notre club manga de l'Otaku Café de jeudi prochain, parce que notre thématique de ce club de lecture qui se réunit une fois par mois, c'est les clichés du shonen.
Ah ouais.
Et je peux t'assurer que Naruto par exemple va en prendre plein la tronche, mais de la même manière que d'autres shonen.
tous.
Je croyais que c'était fin d'année.
Feel good.
Cette histoire là.
Feel good.
Chou.
Donc oui, toi t'en as marre des clichés.
Enfin ouais, voilà, là tu suis quelqu'un qui galère un peu dans sa vie, qui a une vie compliquée dans un univers qui est quand même assez fascinant parce que le milieu. Du coup, des suivantes de l'empereur, c'est quand même quelque chose de très, en plus de très étranger. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette culture-là. Je me suis très peu intéressé à l'histoire de la Chine et du Japon, donc c'est assez ouf, quoi.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ça se passe en Chine et du coup, c'est toute une autre culture. C'est pas la culture japonaise qu'on a l'habitude de voir dans, dans les mangas. Et en plus de ça, le personnage principal est une femme, et du coup, ça amène des problématiques qui sont spécifiques en fait
aux femmes.
Aux femmes. Ouais. Et du coup, c'est ça qui fait que ce manga il est intéressant, et que j'invite tout le monde à le regarder ou à le lire selon.
Franchement, le manga il est très centré sur les femmes, je trouve. Je trouve que genre tous les personnages ils sont très beaux et au niveau de comment l'intrigue a avancé depuis la saison 2 avec je vais pas trop spoiler évidemment. Franchement, l'implication est devenue plus en plus haute. Par exemple, saison 1 c'était ça.
Ouais.
Saison 2 c'était ça.
Ouais, alors va falloir le représenter. Alors, elle a fait le geste avec les
bras. Non, on est à radio. C'est ça, voilà. Les gens ne te voient pas.
J'ai oublié. OK, saison
2 sur une échelle de 1 à 10, tu vois. Saison 1
sur l'échelle de Flash.
Sur une échelle de 1 à 10, saison 1 c'était 1.
Oui.
Et saison 2 c'est 10.
Quand j'ai vu ça, là, je me suis dit. Soléna, n'oublie pas qu'on est à la radio, que les gens ne nous voient pas. Bon, bref, en tout cas, c'est crescendo, c'est ce que je veux au niveau des enjeux. Bon, bah, très bien, en tout cas. L'histoire se passe apparemment au niveau de la dynastie Tang, qui est située entre le 7e et le 10e siècle. Donc on n'a pas, j'ai pas vu la date exacte de l'intrigue, mais en tout cas on se situe à peu près dans cette période de l'histoire de l'humanité.
C'est cool, faudrait que tu regardes. Hein,
Mais il est noté dans ma liste encore une fois. J'ai une liste longue comme le bras, mais bon, je vais vous dire tout à l'heure aussi tout ce que j'ai lu et c'est pas. Voilà, c'est malheureusement difficile. Avant quand même que je prenne la parole peut-être, même si je trouvais que ma transition aurait été intéressante parce que moi aussi je vais parler un peu de Chine, mais d'abord Réma, toi tu avais aussi une proposition, tu m'avais dit bonne nuit Poun Poun.
Oh mon dieu. Alors oui, c'est un manga à l'apparence très mignonne.
Ça fait... Oui bah, vous allez m'expliquer pourquoi c'est pas si mignon.
Oui. Alors tout d'abord c'est écrit par Inyo Asano et édité par Kana en 13 tomes, publié entre 2008 et 2013. Donc on suit un enfant qui arrive en CM1 sous l'apparence d'un petit oiseau tout mignon, dont sa famille aussi est en apparence de petit oiseau tout mignon. Et en fait, on va suivre un peu une vie un petit peu classique que pourrait rencontrer un enfant. Donc son premier amour, il va avoir malheureusement un petit divorce qui va mettre un peu mal dans sa vie, ses premières idées noires, et après ça va avancer petit à petit, et on se rend compte que ce petit manga n'est pas du tout mignon, il est très Soléna, traumatisant.
Soléna a aussi été traumatisée, je l'avais soufflé là.
C'est... En fait, Bonne Nuit Poun Poun, au même titre que Made in Abyss, fait partie des mangas qui ont, entre guillemets, traumatisé énormément de personnes. Alors moi, je l'ai découvert vraiment très récemment, je l'ai fini en début d'année. Et vraiment, c'est extrêmement dur à lire. C'est pas du tout fantaisiste, c'est juste la vraie vie en fait. C'est la vraie vie, mais en même temps, bon.
Oh, c'est hardcore.
C'est vraiment
la vraie vie hardcore, ouais.
En fait, je l'ai lu une fois parce que c'était. La raison était totalement bête. J'ai vu, il y avait un de mes personnages favoris dans Blue Lock en fait, où c'est noté son manga favori. Et c'était Bonne Nuit Poun Poun. Donc je me suis dit, bon, je vais le lire. En plus, je n'allais pas bien dans ma vie. J'ai commencé à lire, ça m'a tellement plombé que j'ai dit. Je vais me remettre en question sur ma vie entière.
Bah, soit ça peut te plomber, ou soit ça peut avoir un effet cathartique. Tu vois, moi par exemple, quand j'allais pas bien, j'ai regardé Princesse Sarah, ça m'a fait pleurer à plusieurs reprises et ça m'a fait du bien, tu vois.
Ouais, non, Bonne Nuit Poun Poun m'a trop.
Bonne Nuit Poun Poun, il fait pas du bien, vraiment. C'est.
Ouais.
C'est. En fait, mais il y a quand même des petites particularités dans ce manga. C'est que, oui, on suit l'enfance de Poun Poun, donc c'est le nom du personnage principal. Hein. Mais pas que. En fait, il va rencontrer une fille Je me rappelle plus trop, je crois qu'il s'appelle Aiko, je crois. J'ai un peu oublié le nom des personnages.
On a rencontré une fille en tout cas, oui. Oui.
Et en fait, il va tomber complètement fou amoureux d'elle. Et il va tout faire pour elle. Absolument tout. Jusqu'à de l'obsession
toxique.
Maladive. Hein.
Oula.
Et en fait, en même temps, on va aussi suivre d'autres personnages. L'ami qu'on n'a pas vu depuis le début du tome 1, bah tiens, d'un coup on va avoir 5 chapitres consacrés à lui. Mais c'est pas forcément des histoires horribles, des fois c'est bien. C'est d'un coup, en plein milieu de la chose horrible, comment ça se passe entre deux, ça se passe bien, c'est mignon. Mmh. Et après on retourne à la réalité avec Poon Poon.
Ouais. On alterne des séquences plutôt douces avec des séquences très dures.
Et surtout le dessin. Ouais. Le dessin, il est magnifique. Du coup, ça m'a donné envie de lire d'autres œuvres que j'ai pas encore commencé, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres aussi. Il y a aussi Mujina, par exemple, qui est sorti il y a un ou deux mois, qui est fait du même auteur aussi. J'en ai pas parlé vraiment là parce que je peux pas dire qu'il m'a marqué. J'aime bien, mais pas marqué non plus. Mais ouais, Bonne Nuit Poon Poon, c'est entre les dessins et le scénario beaucoup trop réaliste. Même si d'un côté il y a certains visages qui sont complètement absurdes et qui étirent vraiment jusqu'au bout. Mais c'est...
Dans la grande logique peut-être du théâtre kabuki japonais aussi, où on est très dans l'expressivité aussi des émotions et des sentiments aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, à la base, même si tous les personnages de la famille de Poon Poon étaient des petits oiseaux, en soi, à la fin, il le reste encore. Il y a juste Poon Poon qui n'est plus trop un petit oiseau et qui commence à devenir un démon, un peu.
Ah, j'allais dire un grand albatros, peut-être.
Un démon, mince.
Mince, ça se passe pas si bien que ça. Ok.
Qui était presque.
Ouais. Bonne Nuit Poon Poon, donc la recommandation de Rema. Effectivement, j'ai regardé aussi j'ai vu un peu des images du manga. C'est très très bien dessiné, vraiment. Ouais, et ça a l'air vraiment de raconter des choses extrêmement fortes.
Et toi, Thomas?
Ah, et moi alors?
Oui, parle-nous.
Ah, ben alors, je vous fais juste la liste très rapidement de ce que j'ai découvert. Ce sont des choses que je vous recommande. Alors, celle que je vous recommande peut-être moins, c'est Dead Man Wonderland. Je trouve que pour le coup, on est sur un shonen. C'est classique au départ, ça part bien au départ, on est dans le...
Il veut devenir le meilleur
Non, pas vraiment, non, parce que là on est plutôt dans une histoire d'injustice à la Gachacuta, avec l'enfermement du personnage principal dans un système carcéral privé sous forme de... espèce de...
Sarkozy.
Alors c'est pas un parc d'attractions, non, mais c'est une espèce un peu de battle royale au sein de l'univers carcéral. J'ai bien aimé le début mais j'ai pas forcément aimé la progression et les thématiques qui étaient ensuite développées, parce que je trouvais qu'il y avait autre chose à dire sur l'univers carcéral par exemple japonais. Mais bon, Dead Man Wonderland. Sinon j'ai découvert aussi...
Je voudrais aussi dire quelque chose par rapport à ça, c'est qu'en fait ce que conseillent les gens pour Dead Man Wonderland, c'est de pas regarder l'animé.
Ah mais j'ai lu que le manga, hein, j'ai pas regardé l'animé. Hein. Et tout ce que je vous dis c'est des mangas. Hein.
Ouais. Ok, d'accord.
Je ne lis que des mangas, je ne regarde quasiment pas d'animé.
L'animé à la base, il commençait bien, mais il a eu une très mauvaise note après parce que la fin, ils sont partis un peu en couille en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on recommande surtout aux gens de lire le manga.
Non, mais ils nous ont fait effectivement, comme c'est le cas pour beaucoup de mangas en fait, des fins un peu trafiquées et une autre direction. Mais bon, même le manga, j'ai pas forcément trop aimé la direction que ça prenait non plus. J'ai découvert Vagabond aussi, grande œuvre magistrale donc de Takehiko Inoue.
Mais Vagabond, c'est pas une découverte de l'année?
Non, mais mes découvertes à moi. Quand je dis mes découvertes à moi, en fait, c'est-à-dire...
Oui, mais ça, Vagabond, tu m'en parles depuis plus d'un an.
Oui.
Thomas, 2025.
Pardon.
T'as quand même un an.
C'est vrai, ça fait un an. Bon, bah, t'as raison, c'est pas la découverte, mais c'est plutôt la fin. Je l'ai fini, pardon.
D'accord, ok.
Pardon.
Il a découvert la fin.
Ok. Alors, en vraie découverte, Erased. Ça, je l'ai découvert. Série courte en 9 tomes et avec un animé aussi de très très bonne qualité que je recommande. Capeta aussi, une histoire très peu connue aussi sur un gamin qui fait du karting et qui vient d'un milieu assez populaire, donc il n'y a pas les moyens de s'acheter un kart digne de ce nom, mais qui grâce à sa volonté et grâce notamment à l'aide quand même de son père qui va travailler, qui est un bon mécanicien, va essayer quand même d'inscrire son fils dans les courses automobiles à côté de tous les bourgeois qui eux peuvent se payer des kartes de qualité. Mais surtout Kingdom. Ouais, Kingdom. Ça, c'est un univers de... je confonds. C'est une histoire de l'unification de la Chine, pardon, autour du 3e siècle avant notre ère. J'allais dire Dark Fantasy parce que j'allais vous parler de Claymore aussi, mais que je suis en train de lire en ce moment. Ça n'a rien à voir. Kingdom, donc, c'est autour de l'unification de la Chine, autour du 3e siècle avant notre ère. Et on a un récit qui se base sur des personnages réels, mais qui n'a pas pour prétention d'être fidèle d'un point de vue historique. On a ainsi des personnages qui sont romancés et des scènes un petit peu surnaturelles d'un point de vue graphique qui permet d'imprimer la puissance des généraux qui sont dépeints dans ce récit de guerre et de conquête. L'histoire se focalise sur deux personnages, à savoir Shin et Sei. Shin, qui est un esclave qui rêve de devenir un grand général aux côtés de son meilleur ami. Et à la suite d'événements traumatisants, eh bien Shin va se retrouver à aider le jeune prince Heisei, qui est lui en lutte pour le pouvoir dans le royaume de Qin, l'un des six royaumes principaux compose en fait la Chine qui n'est pas unifiée à ce moment-là. Donc les deux jeunes hommes vont gravir des marches du pouvoir, chacun de leur côté, pour un même objectif, unifier les différents royaumes chinois pour arrêter définitivement les guerres qui le minent depuis plusieurs siècles.
Ça, c'est toujours... Enfin, c'est rare que ce soit dans les mangas, etc. et tout, mais c'est un motif hyper présent dans les films d'arts martiaux.
Ah oui ?
Ouais, je suis grand fan de films d'arts martiaux, et à chaque fois, l'unification de la Chine, c'est genre le but ultime, tu vois, genre, on t'explique que, voilà... il faut absolument que ça se fasse, tant que ce sera pas le cas on n'ira pas bien loin, etc.
C'est un peu ce qui est dépeint aussi dans ce manga. Alors d'un côté on a les luttes politiques et de cour avec justement Heisei qui va subir les coups bas, les intimidations, les tentatives d'assassinat et les changements d'alliance qui sont donc monnaie courante. Et dans Snit Viper, eh bien, Heisei va devoir procéder avec prudence pour obtenir ce pouvoir et l'exercer. Donc ça, c'est le côté politique, et il y a le côté de la guerre et de l'art militaire qui lui est incarné par Shin, qui a donc pour ambition de devenir un grand général. Ce dernier, donc, c'est presque l'archétype du héros de shonen qui a débarqué dans un univers de seinen très violent. C'est un peu comme si on mettait Naruto dans l'univers de l'âge d'or. Non, mais vraiment, c'est pas une critique. C'est pas du tout une critique, mais c'est comme si on mettait Naruto, voilà, dans l'univers de l'âge d'or de Berserk sans les monstres surnaturels.
Oh, la violence.
Voilà. Shin, il gravit les échelons un par un, il subit des coups et des blessures et il se relève toujours. Alors, il est con, il est pas stratège pour deux sous, mais il inspire les autres par ses actions et par son honnêteté, et il réussit rapidement à réunir et à s'attirer la confiance d'un grand nombre de personnes qui vont lui être loyales jusqu'à la mort.
Un genre de Captain America, quoi.
Ouais, d'un certain point de vue, je sais pas exactement. Ouais, parce que Captain America, il tue pas. Shin, il tue. Ah. Et en masse, hein, vraiment. C'est-à-dire que certaines personnes donc, vont prendre des positions stratégiques dans son unité et vont représenter un soutien indispensable pour Shin. On va montrer très souvent que Shin, c'est le cœur de son unité, mais il peut rien faire sans les autres.
Un voilà. peu comme Luffy, quoi. Ouais.
C'est ça,
un film, je dis ça parce que je regarde le One Piece.
Avec un peu plus de personnes, hein, parce que son unité, elle va grandir au fur et à mesure. Elle va passer de plusieurs dizaines de personnes à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de soldats. Ça, voilà, il va prendre du galon, Shin, au fur et à mesure. On est quand même à 75 tomes traduits en ce moment en France, et c'est toujours en cours de parution, et je pense qu'on va dépasser assez facilement les 100 tomes, hein, si ça continue comme ça. Donc je parlais de ces personnages notamment qui représentent un soutien indispensable pour Shin, et on peut citer notamment deux femmes qui sont sans doute les deux lieutenants les plus précieux de Shin. D'un côté vous avez Karyoten, une petite fille qu'il va rencontrer au début de l'œuvre et qui va par la suite se former en stratégie militaire au point de devenir la stratège officielle de l'unité. Et l'autre bras droit de Shin, c'est une combattante exceptionnelle du nom de Kyokai qui fait partie d'un clan de femmes qui ont été formées pour devenir des assassins et qui maîtrisent une technique de combat qui est presque surnaturelle. Kyokai, elle est tellement forte qu'elle bat toujours Shin dans leurs entraînements respectifs. Alors Shin, il a bien sûr pour lui l'élément de la persévérance et de la résilience qui lui donne l'avantage en situation de combat réel, mais Kyokai, elle a largement l'étoffe pour devenir elle-même générale. C'est un peu comme Zoro dans One Piece lorsque certains personnages font la remarque qu'il serait assez fort pour être lui-même capitaine de son propre équipage. Pour en revenir à Shin, contrairement à de nombreux autres généraux, eh bien, il a mis en place une règle d'or dans son unité, à savoir l'interdiction formelle de tout pillage et de toute violence à l'encontre des civils des pays qui l'envahissent. Mais malgré ses beaux principes, Shin, eh bien, il fait la guerre et il envoie à la mort des centaines et même des milliers de soldats qui n'ont eu d'autre tort que de se retrouver tout simplement dans le camp d'en face et de vouloir protéger leur propre pays. L'histoire, elle se concentre avant tout sur l'aspect épique des batailles de grandes ampleurs et des duels de généraux, mais on a quelques moments spécifiques qui permettent aussi de montrer bien tout le paradoxe et la complexité de cette fresque historique et des émotions qui étreignent la très grande galerie de personnages qui est dépeinte en 75 tomes, je le disais tout à l'heure, actuellement sorti en France. On a l'auteur Yasuhira Hara qui a largement le temps de créer des personnages tout aussi charismatiques les uns que les autres, et tout cela est porté par un graphisme exceptionnel, extraordinaire, je n'ai pas d'autre mot, c'est épique, c'est précis, c'est dur, c'est magnifique.
On est sponsor pour ça ?
Non, c'est juste qu'à un moment donné, Kingdom, c'est quand même une référence absolue parmi les mangas qu'on peut actuellement lire et qui sont encore en cours de parution. Et juste pour évoquer aussi un aspect paradoxal qui est parfois souligné dans certaines scènes de Kingdom, bien c'est tout simplement que pour arrêter les guerres, l'objectif de Shin et de Sei, bien pour arrêter les guerres, il faut faire la guerre et envahir les autres. Pour stopper les massacres sur le long terme, ils ont décidé de tuer des personnes qui veulent défendre leur terre.
Pour arrêter.
Démerdez-vous avec tout ce paradoxe. Voilà. Et donc c'est Kingdom. Ouais, Victor, le temps avance effectivement. Vous avez d'autres œuvres éventuellement à présenter ?
Bah moi j'attendais un tout petit peu mon tour.
Vas-y.
Pour le coup.
JJK
même pas.
Ah, oh.
Ah bah non, en plus, étonnamment pour cette année, je me suis mise au shoujo. Et je me suis mise à regarder lire plutôt You Rock Me, qui est un shoujo sorti en 2022 et que c'est tout récemment qui est sorti en français cette année, et bien évidemment je suis allée l'acheter dès que je l'ai vu. J'étais en train de hurler en plus lorsque j'étais au Miss Catholic Shop. Et en gros, l'histoire, je vous lis un tout petit peu le résumé. Ibari, étudiante en graphie, se trouve beaucoup trop sérieuse mais n'arrive pas du tout à lâcher prise, ce qui l'empêche d'avancer dans son travail. Un jour, dans le restaurant de ramen où elle travaille, elle fait la rencontre tumultueuse de Gaku, étudiant en art dans la même université et tête d'affiche dans un groupe de rock. C'est un garçon libre et fougueux aux antipodes de ce qu'elle est et qui va complètement secouer la vie d'Ibari et l'inciter à changer totalement ses habitudes. Et ce que j'ai bien aimé dans ce manga en fait, et ce que je découvre qu'il y en a très peu dans les shoujo, c'est que ça se passe à l'université. Ça se passe pas au lycée.
Oui, c'est bien ça.
fallait me voir comment j'étais en train de me dire yes.
Ouais, moi, le truc où ça m'avait saoulé, c'était Lelouch of the Rebellion.
Oui, Code Geass. Alors, Code Geass, c'est super, mais oui, les scènes au lycée.
Ah tu t'en fous tellement, quoi.
Oh, c'est nul, ouais.
Mais vraiment. Et ce qui est bien, en fait, dans l'histoire, c'est que.
Ils sont majeurs.
Oui.
Du coup, vous pouvez aller regarder du hentai.
Non, là, ouais.
Attends, ça veut pas dire qu'ils ont le droit de boire de l'alcool, hein, quand même, parce qu'ils ont peut-être 21 ans.
Non, ils ont environ 21 ans, je crois, de souvenir. Okay. Et en fait, ce qui est bien, c'est que la relation, en fait, tu sens directement la chimie entre les deux personnages qui vont bien évidemment se mettre en couple. Et en plus de ça, ça se passe vite. Genre ça va pas dans plusieurs épisode de la plage, genre épisode de confession, épisode de l'événement de l'été. Non, ça va directement dès que genre ils se rencontrent, ils vont petit à petit se mettre en couple. Tome 1, non même pas, tome 2 à la limite. Et genre on voit juste leur relation, comment elle se développe au fil de l'histoire.
Ça s'appelle Rock Me, c'est ça ?
You Rock Me, ouais.
You Rock Me.
Et avec les deux L, hein, c'est ça ? You Will Rock Me, c'est ça ?
You Rock Me. Non, c'est You Rock Me.
Ah oui, au présent, ok, d'accord.
Oui, vraiment, c'est vraiment ça.
D'accord, ça marche.
Et franchement, la manière dont j'ai découvert sur TikTok. Voilà. Ok,
excellent shoujo.
C'est honteux.
Excellent shoujo, effectivement.
Mais franchement, excellent. Je recommande en tout cas.
Mais après, si t'aimes aussi les shoujo avec des personnes qui sont pas en lycée, eh ben je recommande Nana aussi. Ouais, dans les découvertes que j'ai faites en 2025, Nana, on aurait pu aussi en parler, Victor. Ok, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour entre nous ? Parce que ouais, qu'on ait un peu le temps de faire le jeu. Moi, je vous parle juste aussi de Claymore. Actuellement, je suis au tome 5 et voilà, c'est un peu, si vous voulez voir du Berserk au féminin, univers de Dark Fantasy avec des femmes mi-humaines, mi-démons, c'est très bien. Marion, t'avais un avis sur Claymore ?
Je disais juste oui.
Ouais, t'as lu Claymore ?
J'ai regardé, mais quand j'étais au collège.
Un animé, l'animé, ouais. Toi. Ok, d'accord. Ouais. Bah moi j'aime bien en fait, c'est juste le début qui est un peu conventionnel et un peu forcé je trouve, mais ensuite après l'histoire elle prend un peu en consistance je trouve à partir du tome 4, tome 5 et même le graphisme aussi de l'auteur Norihiro Yagi prend également en consistance. Donc Claymore, je vais prendre plaisir à le lire, il y a un peu plus d'une vingtaine de tomes. Voilà. Ok, eh bien on entre dans la dernière ligne droite de notre émission bien évidemment. Place au jeu concocté par notre ami Steven.
Ouais. Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club.
Vous pouvez voir.
Bon, allez, Game Master, c'est à toi de jouer.
Alors, le jeu s'appelle Les résumés foireux.
Oh mon dieu, ok.
J'ai fait des résumés foireux de licence, hein, et en fait, il faut tout simplement me trouver le nom de la licence.
C'est marrant ça.
Alors,
t'as regardé Retake ? Non, par exemple, c'est une chaîne YouTube où ils refont des doublages foireux d'animés. Bon, bref, voilà, vas-y.
Oui, allez, le premier, il est facile, c'est pour que petite mise en jambe. Alors, le résumé.
Je regarde pas.
Un gamin et ses amis font le tour du monde pour qu'il puisse devenir...
One Piece.
Bon, okay. je vais finir quand même.
Attends, qui a gagné là
Solena, ouais. Solena, je pense. Alors, du coup, je finis pour enfin devenir le meilleur en trouvant un truc que personne n'a jamais vu. Son plan, c'est de manger des tonnes de viande et de se battre contre des gens qui mangent des fruits encore plus bizarres que lui. Ok, on passe à la suite. Un point pour Solena. Alors, le deuxième. Un gamin sans talent se retrouve avec un pouvoir...
Naruto.
Emacha.
Oui, ouais. Ah merde.
Ok.
Emacha, ouais.
Oui, c'est Emacha. Qui lui brise les os, il étudie désormais pour devenir le plus grand des flics en collant. Alors, une adolescente paresseuse et amoureuse de la nourriture se transforme en super-héroïne en mini-jupe quand un monstre attaque.
Sailor Moon.
Oui.
Ah, ouais. Damn.
Elle rencontre un mec
Rayman,
en smoking.
C'est ça, ouais.
Oui. Ouais.
Elle rencontre un mec en smoking qui lui lance des roses. Donc ouais. Voilà.
Deux points pour Solena, un point pour Emma.
Exactement.
Et un point pour toi.
Hein ?
Non. Allez, c'est parti. Un gamin hyperactif et bruyant est obsédé par un beau gosse Mossad, le tout supervisé par un professeur qui lit des romans pour adultes.
Naruto.
Ouais.
Ah oui, bah oui.
Alors, je sais pas qui a le point par contre.
Je sais pas.
On l'a dit tous en même temps.
un point chacun. Allez, je veux dire Solena, Marion et Victor, ouais.
Moi, j'ai dit aussi.
Non,
moi je l'ai pas dit.
Ah.
Ouais, moi non plus.
Ok, donc Rema et Solena.
Super rapide. Okay. J'aurais dû en faire plus. Hein. Alors, un grand homme aigri traîne une grande épée pour au
Berserk.
Final...
Berserk.
Oh, okay. Ah, non, mais en fait, non.
Donc là, c'est Rayman, hein.
Non, ouais, c'est Rayman, c'est Rayman.
3-3.
Non, mais vous me faites ou pour être... Alors, je finis quand même. Pour au final être tranquille, il est aussi maudit et attiré par des monstres démoniaques partout où il va. Son ancien meilleur ami, qui est un beau gosse, mais n'a jamais été satisfait, pardon.
Ah oui.
Et lui a fait sûrement vivre une des pires crasses de l'histoire du manga. Mmh. Ok, la suite. Un lycéen qui sait courir parce que c'est un lâche.
Se
fait attraper par un capitaine de club sportif qui ressemble.
Aishil 21.
Oui.
Ah, ouais, ouais.
Au croisement entre un yakuza et un démon, pour réaliser son rêve d'aller au state, le capitaine exploite sans vergogne son petit esclave coureur.
Bon, si c'était que son petit esclave, le seul, hein, il en a plein. Hein.
Oui, il en a plein. Oui. Alors, deux lycéens possédant des pouvoirs incroyablement bizarres affrontent des
esclaves.
Oui, bon, voilà.
Ah oui, non. 4-4, c'est serré. Hein.
Des bonhommes gris, c'est une histoire d'amour entre ados très étranges avec des grands-mères ultra puissantes.
Okay. Je passe rapidement. Ils sont trop à fond. Ouais, Rema, vous avez pris quoi avant de venir?
Surtout que j'ai pas le temps de finir.
Solena, c'est le genre de personne qui gagne tous les blindes.
Ouais, c'est fou. C'est
ok, fou. Une jeune femme se fait kidnapper et vendre comme servante dans un endroit. On le donne à Victor, même s'il nous a sorti une bouillie.
Il a bégayé, mais on a compris.
Voilà, c'est ça. Et primauté à celui qui nous l'a présenté tout à l'heure.
C'est ça. Alors, un endroit rempli de jolies dames, son boulot est simple, être le Dr House avec un eunuque incroyablement beau gosse.
Donc, les carnets de l'apothicaire, hein, si les auditeurs et auditrices n'ont pas compris. Hein, voilà. je reformule.
Allez, je continue. Hein,
ouais,
le temps, et puis,
allez, ouais, ouais.
Heureusement que j'en ai fait. Hein. Alors, un adolescent profondément dépressif est forcé...
Évangélion.
Oui.
Mais bébé, mais j'en peux plus. Non, mais je suis canne.
Alors par contre il faut qu'on départage Solena et Rema. Donc la prochaine
Ok, donc, je finis. Profondément dépressif et forcé par un sociopathe qui est son père à piloter un robot géant pour sauver le monde. Dans son malheur, il est accompagné de coéquipiers encore plus perturbés que lui. L'histoire se termine dans une confusion totale avec son désert de métaphysique et de souffrance existentielle.
Ah bah ça. Si tu prends la première version, voilà, après, oui, voilà, voilà. Peut-être corriger ça par la suite, d'après ce que j'ai compris, hein.
Alors la suite donc un martien avec des cheveux qui change de couleur au gré de ses émotions.
Dragon
ouais.
Hein? Dragon Ball.
Un martien avec des cheveux qui change de couleur au gré de ses émotions passe son temps à se battre contre d'autres martiens, cyborgs ou créatures bizarres.
Donc Solena a gagné.
C'est
ouais.
Ça.
Oui.
Ouais. Chaque combat nécessitant environ 12 épisodes pour un cri et des monologues de puissance.
Attends, et 25 épisodes pour 5 minutes. Voilà.
Ouais. Alors. Okay. On a encore le temps. Allez.
Bon, allez, vas-y.
Un jeune chef de restaurant de quartier se
Trouve.
Ouais, non mais ok. se trouve profondément se retrouve confronté au mépris de classe au lycée. Dans sa cuisine, il utilise sûrement des psychédéliques et des aphrodisiaques.
Le petit chef. Bon bah, à ma décharge, je devais compter les points et m'occuper d'éléments techniques, donc je pouvais pas avoir la réactivité que vous aviez. Sur ce, eh bien, c'est Soléna qui remporte le jeu avec 6 points, bravo, suivi de Rema avec 4 points. Victor en a 2 et Marion en a 1. Voilà.
Une réaction, Marion ?
L'important, c'est de participer.
Bon, comme d'habitude. Hein.
Merci à vous, en tout cas, pour cette nouvelle belle émission avant donc les fêtes de fin d'année qui vont arriver d'ici 2 semaines, à peu près, un peu moins de 2 semaines. Mmh. Profitez de ces moments-là pour offrir de jolis mangas, de beaux mangas à vos amis. Et puis, profitez bien aussi de ces fêtes de fin d'année. On a besoin de se ressourcer un petit peu après des moments un peu compliqués ou parfois fatigants. Prochain retour pour nous, ce sera vendredi 9 janvier à l'occasion donc de la première émission de l'année 2026, toujours à 19h. Notre thématique n'est pas encore définie, on va en parler. Ça m'a fait très plaisir en tout cas d'être avec vous pour cette nouvelle émission.